Bienvenue à cette soirée de table ronde autour du cinéma et du jeu vidéo. Alors on avait trouvé un titre super sympa, on verra ça, on vous donnera ça tout à l'heure. En attendant, je vous propose de faire connaissance avec mes acolytes qui ont bien voulu se joindre à nous pour cette soirée. Donc je vais vous laisser chacun vous présenter. Merci Cladal, t'es génial. Je vais laisser chacun d'entre vous vous présenter, puis comme ça chacun verra à quel nom et associé quelle voix. Donc je vous laisse vous présenter les gars, et les demoiselles.
Ok, donc moi je commence donc. C'est Johan, Johan from Outer Space. Je débute parce que Ginger est stressé, donc voilà.
Non, c'est parce que je viens de finir mes pattes.
Voilà. Déjà, on va féliciter Dreams pour avoir reconnu en premier Danny Boone sur le dessin qu'il y avait tout à l'heure. Bravo Dreams. Et donc, rapidement, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Dans ma vie sur YouTube, je présente premièrement des nanars, donc des films terriblement mauvais mais également terriblement drôles. Et depuis peu, je fais ce que j'appelle des fiches techniques, où je décris au fait ce qu'est enfin certains stéréotypes, des termes techniques. Bientôt il y aura des biographies qui viendront, etc., etc. Donc là aujourd'hui, je suis très content d'être avec vous ce soir pour parler de jeux vidéo et de cinéma. Et donc pour commencer la soirée, je voulais vous parler d'un nanar. Bon, malheureusement, il y a un illustre inconnu nommé Karim Debbache qui en a déjà parlé. C'est Mortal Kombat Annihilation, donc la suite du premier Mortal Kombat. Et donc là, il y a les images qui vont passer en arrière. Donc Mortal Kombat, pour vous remettre un peu les choses, le premier est sorti en 95. C'est une série B assez honnête, hein, une adaptation avec il y a Christophe Lambert dedans et son rire phénoménal, mais ça reste pas trop mauvais. Par contre, il arrive après une suite. Alors la suite, là, celle-là, elle bat tous les records. Donc déjà, on a un problème, c'est que les acteurs ont quasiment tous changé de tête. Alors un truc assez funny également, c'est qu'ils changent de tête durant le film, sans explication aussi. À un moment, on a Raiden qui se coupe les cheveux et puis qui fait « Ouais, j'ai voulu changer de look, là. » Chose, personnellement, j'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. Mais je vous passe les détails, il y a quelqu'un qui a déjà parlé avant moi. Mais il y a un moment que j'adore vraiment dans ce film, c'est-à-dire que, bon, après nous avoir donné des effets spéciaux, voilà, on a vu une transformation bien pourrie tout à l'heure, des combats un peu mous, des combats dans la boue aussi, hein, parce que c'est un peu bof également. Il y a cette scène finale où le grand méchant se bat contre le grand gentil et ils se transforment tous les deux en espèces d'effets spéciaux pas d'abodelés qui sont absolument dégueulasses. Et donc à ce moment-là, il y a un des personnages qui voit ça et qui sort, qui explose le quatrième mur et qui dit en français, il sort un « Alors là, on aura tout vu ». Et effectivement, quand vous arrivez à ce moment-là du film, effectivement, vous vous dites « Effectivement, on a tout vu ». Vu. C'est un moment assez jouissif pour moi, je trouve. C'est vraiment le moment où le nanar s'assoit à côté de toi et te dit, t'as vu un peu à quel point je suis pourri, tu vois. C'est assez phénoménal. Donc sur ce côté-là, Mortal Kombat, c'est donc un film qui parle de jeux vidéo, qui en parle malheureusement assez mal, qui est assez ridicule. J'espère que ce soir on parlera de quelques bons exemples de films qui en parlent en bien. Mais en attendant, ça reste plaisant à regarder et donc je vous invite à vous procurer ce fameux Mortal Kombat Annihilation.
Eh bien, merci pour cette petite présentation. On passe cette fois-ci la parole à une demoiselle.
Bonsoir. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est Ginger Force, donc Ginger pour les intimes. J'ai donc moi aussi une chaîne YouTube sur laquelle je présente deux émissions. Donc, la première, c'est Adaptation, où je suis hyper douée pour trouver des titres. Et qui parle donc d'adaptation d'œuvres littéraires au cinéma. Là, je suis en train d'en préparer un pour Noël. Et je me suis cassé le cul tôt l'après-midi à faire le dérush audio, donc vous avez intérêt à vous abonner. Et je présente également une deuxième émission qui s'appelle Un pavé dans la mare et qui parle en vrac de féminisme, mais pas que, parce que je suis libre, fuck you. Voilà. Je vois des gens qui me disent bonsoir. Bonsoir, Ginger, parle trop. Moïse, va mourir. Voilà. Donc, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de live et je crois que j'en avais jamais fait pour parler de jeux vidéo. Donc, j'inaugure un petit peu le truc ce soir. Et aujourd'hui, le film que j'ai choisi pour parler de la frontière entre film et jeux vidéo, c'est évidemment Street Fighter, hein, le merveilleux film de 1994, qui se fait beaucoup taper sur la figure, et je trouve un petit peu à tort. En fait, déjà, il était réalisé par Steven D'Souza. Et dans les rôles principaux, on a notamment Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, on sait pas trop ce qu'elle fait là. Et Raoul Julia, qui était tellement merveilleux dans La Famille Adams, c'est un petit peu triste de le voir ici, quoi. D'autant que Street Fighter a été son dernier film, si je me trompe pas, dans les films.
C'est son dernier film.
C'est son dernier film, et on le voit bien amaigri, bien malade, mais bon. Et le film s'est beaucoup fait taper sur la gueule. D'autant qu'en plus, il y a Street Fighter The Movie The Game qui est sorti juste après le film, et que c'est juste nul. C'est horriblement mou, c'est horrible. Mais le film se fait injustement taper dessus et c'est une mine d'or de punchline à base de Zangief qui fait vite changer de chaîne. Ce film me fait mourir de rire et honnêtement, essayez de le voir sous un œil neuf et pas sous l'œil du on va voir un film de merde.
Mais du coup,
il y a Chapeyfer qui dit dans le chat que c'est un dernier film de Raoul Julia et que pour ça peut pas être un mauvais film, mais je pense qu'on peut peut-être lui donner raison sur ce coup-là.
Ah, par la pensée, mon gars, je te donne 500 bisons dollars. Ça vaut même pas son poids en papier toilette.
Of course.
Mister Mea pour terminer ce tour de table.
Moi je suis Mea, je fais des vidéos sur l'histoire du jeu vidéo qui s'appelle L'Antre du Mea. Voilà, je fais aussi des chroniques sur le cinéma. Et bah du coup, comme tout le monde a parlé de films adaptés de jeux vidéo, j'ai parlé de l'inverse, c'est un jeu adapté de film qui est pour moi, je pense, la meilleure adaptation de film qui puisse exister, qui est GoldenEye 64. Puisque déjà, c'est un peu pour ça que j'avais acheté la 64 à l'époque. Avec plusieurs manettes pour pouvoir jouer à plusieurs. Et pourquoi c'est très bien, déjà parce que c'est une équipe britannique et James Bond c'est britannique, donc voilà. Donc justement la patte qui est britannique du truc, et aussi le jeu a été fait 2 ans après le film. Certes, des fois comme les jeux Retour au futur ou quoi que ce soit, ça a jamais aidé, mais en tout cas là pour GoldenEye justement ils ont pu déjà avoir le scénario, déjà avoir le film pour pouvoir faire des choses dessus, et du coup on se retrouve avec un jeu où on se retrouve dans le film, quoi, et à voir tous les passages du film intéressants. Ils ont pu soigner le gameplay et pas faire un truc à l'arrache. Et surtout, ils ont, et puis le truc en plus, c'est qu'ils ont fait le multijoueur, je crois, en même pas une semaine, enfin vraiment en dernière minute, en se disant tiens, on va essayer de rajouter ça, ça sera rigolo. Et c'est ce qui a fait aussi que ça a cartonné à mort. Puisque bon, on pouvait jouer avec tous les personnages de James Bond, même s'ils ont un peu inversé Oddjob et le nain dans L'Homme au pistolet d'or. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment en Angleterre James, quoi. C'est vraiment le jeu qui, la meilleure adaptation qui puisse exister.
Sans compter que ça donne de sacrées parties en multijoueur et que c'était pas triste. Ça pouvait ne pas être triste selon le degré de viciosité des adversaires.
En plus, ouais, ils sont en train de dans le chat, ils disent que tu peux prendre Oddjob pour tricher. On détestait tout le monde qui le faisait, qui prenait Oddjob parce que tu peux pas le tuer. Il est tout petit et c'est relou. Et voilà, ouais, ils ont aussi rajouté des bonus sur d'autres films. Ils ont rajouté le niveau de Moonraker à la fin, le niveau du temple égyptien, même si ça n'a rien à voir, mais avec Baron Samedi, mon acteur est décédé cette année d'ailleurs aussi. Mais voilà, non, c'est pour moi le meilleur souvenir d'adaptation, c'est ça.
Il y a eu des remakes HD de...
Ouais, mais j'y avais joué sur Wii et juste à la Wiimote, c'est insupportable. Ah. Et en plus, ils ont mis la gueule de Daniel Craig à la place de Pierce Brosnan. Et Craig, j'aime bien le dernier, Skyfall, mais pour moi, c'est pas tellement James Bond tel que je le voyais, quoi. James Bond, pour moi, c'est Sean Connery, c'est Pierce Brosnan, quoi. C'est pas...
J'ai vu aucun James Bond avec Daniel Craig, et tout le monde me recommande de voir... Tout le monde me dit Quantum of Solace est nul.
Ah ouais, il a chié.
Et me dit que Skyfall est vachement bien.
Contre. Ah oui, Skyfall... On va éviter de rentrer dans les sujets de débat qui n'ont rien à voir avec notre débat de ce soir. Sinon, je crois que notre pauvre Cladal va nous faire un arrêt cardiaque. Donc on va le ménager, nos chers auditeurs aussi. Alors moi je vais terminer, donc je vais quand même me présenter, je suis Docteur Kiné, mon prénom dans la vie c'est Yannick. Comme mon pseudo l'indique, j'ai fait une thèse sur le cinéma, et à la base j'y connais rien du tout en jeux vidéo, je vais être honnête avec vous. Je suis plutôt spécialiste du cinéma des années 50. Et quand je suis tombé sur le Summer Event cet été, j'ai adoré, et j'avais proposé avec la dalle cette super soirée qui commence. Plutôt pas mal. Alors je vais vous parler juste vite fait d'un truc que m'a encouragé une amie qui nous écoute probablement en ce moment. Oui, toi, c'est mon new. En fait, c'est un truc, mais j'ai envie de dire what the fuck. C'était Super Mario Bros, le film, qui était sorti en 93. Alors je vous avouerai que je sais pas très bien l'univers des Super Mario. Et quand j'ai vu cette chose, je me suis dit, mais quelle drogue ils ont pris. Qu'est-ce que... On reconnaît le code, les personnages de l'univers de Mario, même quand on n'est pas spécialiste du truc. Donc comme quoi, ça a été assez bien introduit dans la culture générale. Mais à part ça, c'est juste un film qualitativement qui est ce qui est. Et qui reste quand même assez sympa quand on veut passer une soirée à se demander mais qu'est-ce qu'ils ont pris comme produit. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première partie de notre débat, et pour ça je vais demander à notre cher Cladal de nous envoyer, je crois qu'apparemment c'est déjà fait, l'extrait de Summer Wars. Pour commencer, on va entrer un peu dans le vif du sujet avec le cinéma qui parle du jeu vidéo. Donc, on va commencer notre premier temps de notre discussion par un premier tour de table sur cette idée en fait que le cinéma, comme dans l'extrait qu'on vient de voir, s'inspire du jeu vidéo. Alors, Karim Debache fait ça bien et beaucoup mieux que nous, mais il fallait bien commencer par quelque part.
Beaucoup mieux que nous, attendez, on n'avait pas commencé d'abord.
Et puis, un des éléments en préparant cette conversation qui revenait surtout, c'était que le jeu vidéo au cinéma, c'était soit un élément, on va dire, de l'histoire. Vous avez dans The Last Starfighter, par exemple.
Es à 900 000.
Ou alors, nous avons les films qui vont reprendre à leur sauce, comme dans l'extrait qu'on vient de voir, les codes du jeu vidéo, mais ça suppose à ce moment-là que les spectateurs connaissent les références. Donc, je propose qu'on parle un petit peu sur ça. On avait parlé pas mal des codes du jeu vidéo et du cinéma. Donc peut-être qu'on pourrait commencer par ce point-là.
Allons-y alors. Donc oui, le jeu vidéo, le cinéma, c'est une histoire un peu particulière déjà, d'une part parce que c'est pas forcément la même génération. Le cinéma, ça a quand même maintenant plus d'un siècle. Le jeu vidéo, ça en a moins de la moitié. Donc on a un conflit un peu générationnel, hein. On a très clairement eu une époque où les grands réalisateurs ne connaissaient tout simplement rien du tout aux jeux vidéo. Il fallait pas leur en vouloir, c'était pas du tout, ils ne pouvaient pas savoir ce que c'était. Ce que ça donnait, ça donnait pendant beaucoup de temps des films vraiment, des films qui, lorsqu'ils abordaient les jeux vidéo, étaient très moyens, étaient au fait ce qui convient d'appeler des films d'exploitation, qui étaient destinés au fait à un public de jeunes, souvent, qu'on associait
caricature.
Merci beaucoup. qu'on associait aux jeux vidéo, quoi. Donc souvent un peu des gens, des gens à l'époque on voyait ça comme des gens un peu teubés, peut-être encore aujourd'hui. Donc il y a eu des tas et des tas de films, tous plus mauvais les uns que les autres, mais heureusement, même à cette époque-là, on avait quelques perles sur ça. Je sais pas si vous voulez caser quelque chose, parce que bon, j'ai pas parlé pendant une heure et demie non plus.
Il y a également le fait, c'est vrai que la continuité de ce que tu dis, c'est aussi le fait que le cinéma a longtemps traité le jeu vidéo, et les joueurs surtout, de manière condescendante. c'est comme tu dis, effectivement, on voit. Enfin, l'image du joueur qu'on avait, déjà, je crois que j'ai vu très très peu de joueuses dans tous les films qui ont été faits sur le sujet ou qui abordaient le jeu vidéo d'une manière ou d'une autre. Déjà, on avait l'image du joueur qui était un obèse aux cheveux gras qui habitait encore chez sa mère. Voilà, qui était tout le temps enfermé chez lui, à manger avec des canettes de coca qui envahissaient son bureau. Et au final, ça faisait passer tous les joueurs pour une communauté d'imbéciles, de nos lives, de gens qui restaient enfermés chez eux, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu déroutant, parce que autant le cinéma a longtemps traité le jeu vidéo de manière condescendante, autant le jeu vidéo s'est beaucoup inspiré du cinéma et a fait énormément de références à certains classiques du cinéma, voire on a repris certains codes. Donc il y a un traitement qui est plutôt bienveillant, je trouve, du cinéma dans le jeu vidéo, mais l'inverse n'est pas du tout le cas.
Après, on a quand même le cas, par exemple, comme dans la Starfighter, où c'est par le jeu vidéo que le héros va se révéler. C'est aussi quand même, il y a quelques exceptions qui vont confirmer la règle d'un personnage qui est en général pas très valorisé, mais qui va se révéler par le biais du jeu vidéo.
Bah, comme dans The Wizard aussi, c'est pareil. Comment il s'appelle en français, mais le film avec Rain Man avec Nintendo là, comment il est The Wizard, je sais plus comment il s'appelle en français, mais ouais, voilà, pareil, que c'est il est très fort à Double Dragon, il fait 600 points alors
l'enfant génial,
c'est ça. Et ouais, il est très fort Double Dragon, il fait 600 000
français,
points
quoi.
Ouais,
non,
mais rigole pas, c'est pas moi qui fais la traduction, hein.
Et oui, et qui se révèle par le jeu vidéo, mais ça reste encore et toujours juste un élément scénaristique. Ça pourrait être du baseball, que ça changerait rien en fait. C'est juste que bah là c'était Nintendo qui sponsorisait, donc du coup c'est Nintendo. La Starfighter, je sais plus s'il y avait une histoire dans le même genre, mais c'était pareil quoi. C'était pour faire en même temps un jeu dans le même genre. Donc après ils auraient pu remplacer ça par, je sais pas, ouais, du baseball ou quoi que ce soit. Ça changeait rien vraiment. Je pense que c'est vraiment c'est comme d'hab, comme maintenant en fait, on dit que PlayStation a démocratisé le jeu vidéo parce qu'il y a plus de gens âgés qui jouaient. Bah non, c'est juste que ceux qui jouaient à Nintendo à l'époque, ils ont grandi.
Et ils ont fait des films après quoi.
Ouais, des mecs frustrés dans leur coin quoi, parce que justement bah c'est la revanche des nerds quoi, tous ces gens-là qui justement font des films maintenant quoi.
Bah au contraire, c'est peut-être justement qu'ils se sont rendus compte que la communauté des joueurs pouvait être une cible marketing, parce que même si quand tu regardes des émissions de télé, on est encore, enfin, que les gens qui jouent à des vidéos sont encore catalogués comme des imbéciles qui habitent encore chez leur mère à 38 ans. Il y a tout de même, quand tu regardes les publicités, c'est plus, enfin, tu vois plus de jeux vidéo où t'as des gens qui jouent en famille, quoi. Donc ils ont dû se rendre compte quand même que le jeu vidéo, enfin que les jeux vidéo se vendaient auprès d'un autre public que celui auquel que celui des jeunes de 15 ans qui habitent encore chez leurs parents et qui passent leur temps sur les jeux vidéo quoi.
Ouais, mais voilà, justement, c'est parce que c'est la cible geek maintenant en marketing. Pourquoi elle est puissante? C'est parce que c'est tous les gens qui ont vécu avec toute cette culture geek qui ont maintenant un emploi. Qui dit emploi dit argent, et qui dit argent dit hey, cible potentielle, vas-y, on va les. Là, c'est pour ça qu'il y a le film Pixel là qui sort en 2015 par Chris Columbus. Qui est tout un ancien groupe de joueurs qui se rebellent pour vaincre une invasion de jeux vidéo quoi, et c'est exactement le même truc. C'est regardez, vous avez vu, on parle votre langage et on peut faire on met des jeux vidéo, vous avez connu. Mais ça dépend, des fois ça peut être bien fait comme Wreck-It Ralph ou truc de Disney, et des fois ça peut être encore juste, ouais, Pixel, je sais pas, j'ai encore rien vu, mais ça peut être vraiment on va utiliser tous les clichés qu'on a, ou comme les teen movies, tu vois, c'est pareil, c'est vrai, on va mettre des gamins, on va mettre du sexe, des trucs comme ça.
On va avoir encore une poignée de Resident Evil hein, qui vont nous prouver que c'est pas terminé hein, à mon avis.
Ouais, exactement, tu vois, tous les Uwebol, tu vois, c'est Uwebol, c'est ça, c'est ouais, j'en ai rien à foutre du jeu vidéo, mais c'est une cible potentielle. Je vais faire de la merde et puis on va voir, ça va sûrement se vendre. Ouais.
Ah, oui, bah. D'ailleurs, c'est rigolo que vous parliez de Resident Evil, parce que je fais un petit aparté. Je suis tombée ce matin, j'ai zappé à la télévision.
Tu t'es pas fait mal, j'espère.
Non, ça va.
D'accord.
Lumique internet.
j'ai zappé la télévision ce matin et je suis tombée sur la fin d'Ultraviolet avec Mila Jovovich, que je n'avais jamais vue et qui est un espèce d'Ion Flux, mais en pire. C'était très étrange en fait, et j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo fin des années 90. Les textures étaient très très moches. Et c'était un petit peu étrange. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un film dans le délire jeu vidéo avec le personnage solitaire qui peut changer la couleur de son armure et qui monte de niveau en niveau pour aller tabasser le boss.
Et qui à un moment sort le cheat code quoi, genre quand elle scanne ses armes, c'est tout le monde dit ouais il a une arme, deux armes, trois armes, et elle quand elle met ses armes c'est écrit plein. Tu vois, ouais, j'ai toutes les armes.
Je suis arrivé plus tard que ça. Moi, je suis arrivé au moment où elle était déjà dans le bâtiment du grand méchant. Ils étaient en train de décongeler un enfant. J'ai pas compris ce qui se passait. Ouais. Et en fait, à chaque fois, tu la voyais, elle franchissait une porte, il y avait des ennemis, elle les tabassait. Elle franchissait une autre porte, il y avait des ennemis, elle les tabassait. Alors, est-ce qu'ils ont fait ça parce que c'était une facilité scénaristique pour montrer des combats, ou est-ce que c'est reprendre? Enfin, j'ai trouvé vraiment que ça reprenait le système de combat de certains jeux vidéo, quoi. À savoir, t'avances dans une salle, tu butes les méchants, et ensuite tu peux passer à la salle suivante.
Et à la fin, tu tombes sur les courgeots qui décongèlent un gosse, quoi. Pas mal.
Voilà.
Et puisqu'on est en train de parler justement du cinéma qui reprend les codes du jeu vidéo, il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que dans certains cas, on se retrouve comme dans Scott Pilgrim, je vais y arriver, que la dalle c'est pour toi, top chrono. On voit l'extrait et vous allez reconnaître, je pense, la musique. Et c'est une manière aussi de parler du jeu vidéo qui est assez intéressante.
Donc on revient donc après avoir parlé un petit peu des adaptations de jeux vidéo au cinéma, mais il faudrait pas oublier que la plupart des adaptations de jeux vidéo au cinéma sont bien pourries, l'inverse est également un peu vrai. On continue d'ailleurs à souvent se venger de la façon dont est traité le jeu vidéo au cinéma assez régulièrement. Le petit Danny Boone en bas le prouve assez bien, hein, l'adaptation en Game Boy de bienvenue chez les ch'tis, quoi. C'est
du racisme anti-oreille d'aiguille.
Voilà. Mais en tout cas, il est bien reconnaissable. Ils l'ont quand même bien fait. Bon, moi, personnellement, quand je le vois, j'ai un peu peur qu'il vienne me réveiller la nuit, mais bon, c'est assez, voilà, quoi. Donc, en tout cas, ce qu'on appelle les jeux à licence, souvent, ça a assez mauvaise presse. C'est assez rare d'avoir des bons exemples en tête. Là, c'est un peu moins explicable en un sens. C'est-à-dire que on n'est pas comme pour le cas du cinéma qui veut adopter du jeu vidéo mais qui a un problème générationnel. Là, les gens qui font du jeu vidéo, généralement, ils ont déjà vu des films avant, quoi. Ils savent un peu de quoi ils parlent. Et là, on est plus dans des cas un peu spéciaux, sans doute un peu poussés par le cynisme des films faits un peu la va-vite pour sortir en même temps, des jeux faits un peu la va-vite pour sortir en même temps que les films, etc. Je sais pas si y a peut-être des gens qui ont des éléments un peu plus précis que ce que je viens de dire.
Je viens juste de regarder le chan et je vois quelqu'un qui dit Scott Pilgrim, c'est une adaptation de bouquin aussi. Oui, c'est une adaptation de comics évidemment, mais au-delà de ça, que ce soit dans le comics ou que ce soit dans le film, il y a énormément de références aux jeux vidéo. Par exemple, je sais plus au début de quel tome c'est. Ça doit être au début du deuxième ou du troisième. Et en gros, la première page, c'est une double page, façon écran de présentation du premier Sonic, si je me souviens bien, où t'as tous les personnages, en fait, qui prennent la pause. Mais t'as énormément de références... De référence aux jeux vidéo dans Scott Pilgrim. Excuse-moi, je reviens à la conversation. Je vous laisse la parole.
Oh, mais pas de problème.
C'est une manière aussi un peu comme si le jeu vidéo était devenu culturellement suffisamment légitime pour se retrouver utilisé comme référence dans tous ces univers-là.
Soit dit en passant, Scott Pilgrim a quand même été hyper mal distribué, quoi.
Ah ouais, bah comme tous les films de...
Oui, comme tous les films d'Edgar Wright, et ouais. Déjà, mais Scott Pilgrim, je me souviens que quand il était sorti, je voulais le voir au cinéma, je l'avais raté lors de sa première semaine, et puis je crois qu'en deuxième semaine, il était plus projeté nulle part, quoi. Alors que je suis à Lyon, quoi, donc c'est pas non plus le trou du cul du monde, quoi.
Et il est sorti genre un an après chez nous, en France.
Ouais, non mais c'est bien, hein, ils encouragent pas du tout le téléchargement illégal.
Non, c'est ça, c'était complètement débile. Mais ouais, il y a pas mal de cinéastes qui reprennent des références, genre Crank. Par exemple, le film Crank, c'est il y a énormément de scènes reprises du jeu vidéo. Il y avait Captain America 2, la scène de l'ascenseur, c'est on dirait typiquement une scène d'un beat'em all typique. Et tous ces effets ont marqué pas mal de réalisateurs justement de maintenant et qui réutilisent ça en langage cinématographique parce que bah ça fait un peu plus moderne déjà et puis ça change un peu le cinéma.
Oui, puis il y a peut-être aussi le fait que c'est peut-être aussi ça va paraître méchant ce que je vais dire, mais c'est peut-être aussi un attrape-nigaud quoi. De dire hey, regardez, allez voir notre film, dedans il y a des références aux jeux vidéo. Et du coup, est-ce que c'est pas encore traité avec condescendance le milieu du jeu vidéo? J'ai un petit peu l'impression que les producteurs du cinéma voient que ça marche et du coup ils récupèrent un petit peu ce qui les arrange sans pour autant prendre ça au sérieux.
Non, pas forcément. C'est souvent quand c'est gros et que c'est bien appuyé que là on le voit pas. Enfin que justement ça fait marketing. Mais la plupart des références comme ça sont, par exemple sauf dans La Plage où là c'était complètement débile, mais dans La Plage t'avais un passage où justement DiCaprio se baladait et il y avait une sorte de vision de jeu vidéo avec il tirait sur des gens, je sais plus vraiment, t'as le score qui s'affichait quoi que ce soit. Bon là c'était raté parce que Danny Boy il avait absolument pas compris les codes, mais par contre dans Le Pacte des Loups t'avais pas mal de références de ça, t'avais le, comment il s'appelle, Vincent Cassel qui avait l'épée d'Ivy dans Soul Calibur ou quoi que ce soit, mais ça reste des références, soit c'est du total repompage, mais dans Le Pacte des Loups c'était quand même Christophe Gans, c'était assez moderne en la matière, et c'était ouais des légères références, et c'est pas du tout pour attirer en disant hey, regardez on a mis l'épée d'Ivy, vous avez vu, parce que ouais, Soul Calibur était venu de sortir, il était pas encore tout à fait le jeu qu'on connaît maintenant quoi.
Bah du coup effectivement je t'en prie.
Oui pardon Ninja, sachant que le principe d'attrape-nigaud dont on parlait, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, et on est quand même au meilleur endroit pour en parler, des jeux vidéo aussi qui vont se foutre la gueule des joueurs en s'adaptant de films ou en étant tirés de la même licence.
Et donc nous sommes de retour à l'antenne. De quoi parlions-nous
On est en train de parler de
l'adaptation ratée de jeux vidéo en film. Et moi j'avais essayé de vous lancer un petit peu sur le vice versa, mais bon manifestement ça nous intéressait pas trop.
Bah après je crois que c'est toi qui as parlé tout à l'heure de jeux à licence.
Oui.
Et voilà, ça c'est un petit peu particulier. Ben quand on avait discuté déjà entre nous de par exemple des licences licences Harry Potter qui avaient été déclinées. Des jeux Harry Potter. Je crois que c'est toi, Damien, qui avait dit que les jeux Harry Potter étaient portés en fait en jeux vidéo, alors que les développeurs n'avaient pas forcément vu le film.
Pas forcément Harry Potter, mais par exemple attendez, parce que du coup j'ai le live qui est en train de tourner en même temps et ça voilà. Oui, par exemple pour le jeu Time Cop, c'était ignoble parce que les mecs, ils avaient absolument c'était Océan qui avait les droits, je crois. Et ils avaient rien en fait. Ils ont fait bon, on va faire un truc sur Time Cop, d'accord. Est-ce qu'on peut voir l'histoire du film? Non. On peut avoir au moins des images? Non. Alors on peut faire quoi? Voilà. Ah bon? Il faut qu'ils sortent dans 6 mois. Allez, dépêchez-vous. Et les mecs, ils sont là, ils font bon, on va essayer de faire quelque chose. Et c'est pour ça que la plupart des jeux sont, ont strictement rien à voir avec l'histoire du film parce que, les pauvres, ils peuvent pas, ils ont pas accès, quoi. Et les rares jeux où, alors, bon, non, c'est pas vrai parce que Avatar c'est de la merde alors que pourtant ils ont pu accéder au truc. Mais il y a rares jeux où
ils ont eu
accès.
Peut-être parce que le film de base est de merde.
On va partir sur ce débat, mais...
Non, on va pas partir sur Avatar, ça suffit, on va tous s'énerver.
On va partir sur Avatar, mais ouais, voilà, eux, ils avaient pourtant accès, c'était en plus la grande pub du truc en disant « Ouais, ils ont pu travailler ensemble » ou quoi que ce soit. Ils ont quand même fait un produit merdique. Parce que Ubisoft, ils savent pas faire les trucs dans les délais, quoi. Voir Assassin's Creed Unity. Bref, je vais pas partir là-dessus. Mais voilà, et t'avais pas mal de jeux, en fait, où les seuls bons Indiana Jones 3, la dernière croisade sur PC, ils avaient carrément accès au script, et c'est pour ça qu'il y avait des scènes qui étaient dans le script et qui étaient pas dans le film. Et c'est pour ça que le jeu est bien. Il y a le King Kong de Peter Jackson. Où Peter Jackson était carrément parti chercher Michel Ancel. Parce qu'il avait kiffé BGE, et il lui a fait, ouais, tu vas-y, on va faire notre film ensemble. Ils avaient fait tout un nouveau truc avec, c'était une des premières fois où, c'est la deuxième fois avec Jurassic Park, Trespasseur, je crois, où, t'as pas de hub, en fait, t'as pas d'indication, sur tes munitions, quoi que ce soit. Donc c'était, en plus, t'avais beaucoup d'idées de gameplay qui étaient derrière. Mais sinon, pour la plupart, c'était ça. C'était des films comme Océan, des films comme LGN, qui, achetaient les licences avant même que les films se fassent. Et qui faisaient un truc en se basant juste sur les posters qu'on leur filait et quoi que ce soit, et ils essayaient de se démerder avec ça, et c'était souvent très très nul, quoi. que tu voyais pas le, tu voyais pas, t'étais pas du tout dans l'ambiance du film parce que c'était pas le film. Et en plus, c'est fait à la vie, c'était fait rapidement parce que il fallait faire le jeu même pas un an après, enfin, ils avaient une seule année pour le faire, quoi.
Juste,
E.T. aussi, oui.
Non, excuse-moi, termine. Après, je reviens sur une question que je vois revenir sur le chat.
Bah, c'était le principe d'E.T. aussi, c'était pareil, tu vois, le mec, il a eu à peine 6 mois pour faire... Mais il a pas eu 6 mois, je sais plus combien de temps il a eu pour faire le jeu, mais c'était des délais de ouf, quoi, et il a fait le boulot qu'il a pu, et ça a donné de la merde. Mais des fois, ça donnait des trucs bien. Par exemple, Aladdin, sur Mega Drive, ils ont pu taffer avec les... David Perry, il a eu le... T'avais la version Super Nintendo qui avait pu avoir le projet bien longtemps à l'avance, mais qui avait eu pas mal de trucs qui étaient pas... Ils avaient pas eu accès à toutes les histoires du film, donc du coup c'est pour ça que c'était des séquences un peu débiles comme dans le désert ou quoi que ce soit. Mais Aladdin sur Mega Drive, par contre, c'est Disney qui avait lancé ça, ils ont eu 100 jours pour faire le projet, mais ils ont bossé avec les animateurs du film. C'est-à-dire que les animateurs du film avaient fait des dessins et des animations qu'ils avaient ensuite intégré au jeu, et c'est pour ça que le jeu avait ce côté disneyien. Et là, ça avait donné quelque chose de bien.
Je reviens juste du coup sur un truc que je vois revenir sur le chat à propos des jeux Lego. Les jeux Lego sont effectivement pas mal. Et par exemple, j'ai beaucoup joué à ceux qui se passent dans l'univers du Seigneur des Anneaux, la première trilogie. Et c'est assez cool en fait, mais c'est peut-être aussi que les jeux Lego qui sont tirés plus ou moins de licences de films sont cool parce que avant de s'inspirer du film, ils prennent leur distance tout de même avec l'œuvre, ils prennent leur distance avec le film d'origine. Et au final, c'est peut-être pour ça aussi que
bah oui, que les jeux sont bons
parce qu'ils
n'ont
pas
en fait.
Envie. Ouais, il y a un côté parodique et puis il y a peut-être aussi le fait que du coup ils ont pas forcément envie de reproduire à l'identique. Par exemple, je me rappelle que j'avais joué à, je crois que c'est au Retour du Roi sur PS2 si je me rappelle bien, mais ça date. Hein. Je sais plus quel. Il me semble que c'était le Retour du Roi parce que c'est le moment où ils vont chercher l'armée des morts. Et j'y avais joué sur PS2 et j'avais trouvé ça naze parce qu'en fin de compte, tu reproduis ce que tu vois dans le film. Et du coup tu fais bah super, je sais ce qui va se passer, je sais quel ennemi, enfin, c'est toujours c'était assez mal fichu. Et le fait que les jeux vidéo Lego partent d'un film de base et ensuite tracent leur propre histoire, je trouve ça plus intéressant, et c'est à mon avis pour ça que les jeux Lego sont assez bons de manière générale, quoi.
En plus, les jeux Lego, ils ont eu le temps de le faire par rapport au film. Genre, il n'y a que lorsqu'ils ont fait la deuxième trilogie de Star Wars, où ils l'ont sorti en même temps que le dernier, c'était la Revanche des Sith. Où là, bon, mais ils avaient eu le temps de faire déjà le modèle, il était fait depuis très longtemps, du coup, parce qu'ils reprennent à peu près toujours la même chose. Et ils font les jeux bien longtemps après, donc tu peux te retrouver dans les ambiances des films, mais ils ont eu le temps de le faire, quoi. Ils ont eu le temps de le peaufiner. En plus, le moteur, c'est quasiment toujours le même.
C'est pas très fatigant. Ouais.
Ouais, voilà, c'est pas très fatigant. Mais c'était le principe des adaptations de LucasArts à l'époque, justement. C'était pour Indiana Jones 3, même pour Labyrinthe, leur premier truc. C'était de se dire, on va pas refaire le film parce que les gens ils ont vu le truc et ça va être intéressant, ils vont rien découvrir. Intéressant, c'est soit de faire des passages qu'on voit pas vraiment dans le film, genre quand ils traversent l'Allemagne, et on le voit pas, alors du coup ça sera intéressant de le faire, ou soit justement de prendre des scènes coupées, de le mettre dans le jeu, comme ça ils se disent si c'est pas dans le film, ça sera dans le jeu.
Mais c'est vrai que par contre peut-être qu'une bonne piste effectivement pour faire un bon jeu vidéo à la base d'un film, c'est de s'écarter du film, de l'enrichir, parce qu'au final le jeu vidéo permet de complètement agrandir l'univers. Et c'est vrai que moi, parmi les bons exemples des bons jeux vidéo adaptés de films, il y a celui qu'on parlait hier, c'était X-Files, mais aussi il y avait le point and click Indiana Jones, quoi.
Ouais.
Celui sur le secret de l'Atlantide, il est génial, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté une histoire, comme
c'est ça.
Déjà, on a toujours le suspense de l'histoire. On a des éléments nouveaux, ça enrichit l'univers, c'est ce qu'il faut faire, quoi.
Mais des fois, on se retrouve dans des situations absurdes où genre, par exemple, c'est Robocop 3 qui était sorti genre un an avant la sortie du film, quoi. C'était complètement absurde. Mais non, mais c'est en fait c'est une des meilleures méthodes que la plupart des gens utilisent maintenant. Genre, attends, c'était quel jeu, c'est Enter the Matrix. Bon, le jeu, ils ont eu énormément de problèmes, donc le jeu est pas terrible au niveau du gameplay, mais au niveau de l'histoire, c'est d'autres personnages, on joue pas Neo. Et du coup, on découvre des pans entiers du film, enfin des films, parce que ça se passe entre le 2 et le 3, des pans entiers du film qu'on découvre par nous-mêmes, en fait, par notre personnage, et en plus,
ça se déroule entre les deux meilleurs films, quoi.
Oui, non, mais d'accord, mais oui, ouais, ils ont vraiment pas eu de chance pour le jeu. Non, un autre exemple, c'est Le Parrain, voilà. On va prendre Le Parrain. Bon, déjà, ils l'ont fait 30 ans après le premier, donc c'est, enfin, 30 ans après le film. Mais voilà, on joue un nouveau membre de la famille qui arrive et qui va grimper les échelons jusqu'à devenir le nouveau don. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, par exemple, la scène de la tête de cheval dans le plumard, c'est nous qui mettons la tête de cheval dans le plumard. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que, un, on ne revit pas la scène, donc on n'est pas en train de se dire, tiens, je fais exactement ce qui s'est passé. Mais on se dit, ah, mais c'est comme ça qu'ils ont mis la tête de cheval. Ah oui, effectivement, ils ont bien galéré. Et du coup, tu te retrouves dans l'univers de l'œuvre, mais tu te retrouves pas à refaire l'œuvre. Enfin, du coup, c'est beaucoup plus intéressant au niveau de l'adaptation qu'au niveau du jeu, quoi.
Et on a un autre exemple de cohabitation comme ça, où jeux vidéo et cinéma vont se rejoindre, alors je sais pas si Gladal est prêt. Assassin's Creed avait sorti une série de courts-métrages qui préparait et élargissait la backstory des personnages qu'on allait manipuler après dans le jeu, et les courts-métrages avaient été projetés au cinéma. Je vous propose de regarder un petit reportage qui parlait de ça à l'époque.
Assassin's Creed, c'est un jeu vidéo ou bien une bande dessinée, mais c'est aussi un film. En fait, difficile pour les non-initiés de savoir exactement ce qu'est Assassin's Creed, car pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo, un éditeur a lancé parallèlement à la sortie du deuxième volet de la saga une bande dessinée dédiée à l'histoire des personnages. Mais pour allécher les passionnés, un court-métrage en 3 épisodes a même été tourné. Présenté en avant-première dans ce cinéma parisien, il raconte l'histoire du père d'Ezio, le personnage qu'on incarne dans le jeu. Réalisé par le studio Hybrid, qui a déjà à son actif les effets spéciaux des films Sin City et 300, ce court-métrage est diffusé sur le site de partage YouTube. Le jeu, comme le film, ont pour toile de fond l'Italie de la Renaissance, de quoi donner du fil à retordre aux développeurs.
On a été comblés avec Assassin, parce qu'en plus, en Italie, en 1476, c'est fabuleux. C'est difficile, par contre, quand on écrit « Ouais, il y a une bataille, ça se passe à la place Saint-Marthe, à Venise, OK ». Pas facile à reproduire, pas facile à faire.
Jeu, film, BD, l'éditeur français Ubisoft, poids lourd du secteur, mise gros sur la sortie d'Assassin's Creed 2, avec comme but principal de toucher un nouveau public.
L'idée, c'est que le jeu n'est joué aujourd'hui que par un nombre limité de personnes, alors que le cinéma et la télévision sont vus par tous. Donc, on est en empruntant un savoir-faire au métier du cinéma, on pourra étendre le nombre de joueurs.
Avec cette nouvelle stratégie multimédia, l'éditeur français compte bien faire d'Assassin's Creed 2 l'une des meilleures ventes de l'année. En 2007, le premier opus avait été vendu à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde.
On est de retour, donc là, il y a une question intéressante qui a été posée pendant la pause. C'était, est-ce qu'il y a un scénario à Assassin's Creed ? Alors, je vais vous laisser débattre entre spécialistes de ce sujet-là.
Oui, mais c'est nul.
Il n'y a pas de scénario dans ce sens.
Déjà, si, il y en a, mais c'est
mais il n'y a pas de scénario dans le jeu.
Enfin, si, c'est un scénario à la Luc Besson, quoi. Genre, alors en fait, la mémoire, elle se transmet par les gènes, tu vois, après, bon, on se sert que 10% de son cerveau et on est tous d'accord, ok? Non, c'est l'horreur, quoi.
Faut arrêter avec les scénarios dans le jeu vidéo, je suis désolé, au bout d'un moment. Les scénarios, c'est juste.
C'est un prétexte.
C'est un prétexte pour placer des scènes, quoi. Et c'était Spielberg qui disait ça sur les jeux. Il fait on pourra mettre n'importe quel à part pour certains jeux, mais on pourra mettre n'importe quelle je sais pas motivation dans un mec ou disant ouais alors faut pas, attention, tu es quelqu'un qui est traumatisé par la guerre ou quoi que ce soit. Non, dès que tu verras des cibles à abattre, tu t'abattras les cibles parce que ça fait des points, c'est tout ce que tu comptes. C'est les motivations, à partir du moment où t'as un objectif, tu t'en fous complètement d'après de ce qui se peut se passer, quoi.
Au cinéma, on appelle ça un MacGuffin, quoi. C'est un prétexte à ce que l'histoire se déroule,
c'est ça,
quoi.
C'est exactement
ça. C'est le fait que tu te fous complètement de savoir ce après quoi tu cours, mais il faut que t'aies quelque chose après quoi courir.
Tout à fait.
Mais du coup, si on peut parler d'Assassin's Creed, on est en live ou pas là?
Ouais, c'est bon, on y est.
Ah d'accord. Mais du coup, si on peut parler.
Tu peux cracher sur Assassin's Creed
non,
en live.
En fait, c'est le 3 et c'est là où je trouve un peu. Alors, est-ce que c'est là où je trouve un peu nul la matière de comment dire, de mettre des histoires dans les jeux vidéo. Je dis pas qu'il y en a pas, hein, dans les jeux d'aventure ou quoi que ce soit, il y en a. Mais dans la plupart des jeux d'action, le scénario est juste un prétexte. Et par exemple, t'as le célèbre passage de la chevauchée de Paul Revere dans l'histoire américaine. C'est un mec qui a parcouru toute la côte pour allumer des lanternes et pour dire attention, les Anglais arrivent, les Anglais arrivent, les Anglais arrivent. Ici, c'est juste une putain de mission FedEx où t'es juste sur un cheval en train de, et tu l'amènes à une porte, il frappe à la porte, il fait les Anglais arrivent, il monte sur ton cheval, tu reviens un truc et t'as pas du tout l'importance de la chose, quoi. Et parce que t'es juste en train de te dire alors il faut surtout pas que je me plante avec mon cheval, il faut que j'avance là, et c'est un peu particulier.
Bah, le truc, c'est que j'ai un petit peu joué à l'Assassin's Creed qui se passe pendant aux États-Unis. Alors je sais plus, c'est le 3 celui-là, non? Ou c'est le 2?
C'est le 3.
Oui, c'est le 3. Bah, j'ai un petit peu joué à celui-là, mais alors vraiment petit. Et j'ai pas accroché, quoi. Après, c'est peut-être parce que c'est pas mon genre de jeu, mais il y a effectivement le fait que des fois. Je comprends ce que tu veux dire, mais il y a des fois tu fais des actions et tu comprends pas l'importance qu'elles peuvent avoir. Tu te dis juste ah tiens je vais faire ça et puis ça va déclencher une cinématique.
Alors après je vois que ça s'énerve en étant les trucs. Je parle pas des RPG ou quoi que ce soit, hein. Je parle vraiment des jeux d'action, hein.
Bah c'est ce qu'on dit. Enfin je sais plus c'est qui disait ça quoi, au final. Tous les films de guerre ça pourrait être les rouges contre les bleus, ça serait pareil quoi. C'est on nous met un complexe derrière.
Edge of Empires, putain, t'en as rien à péter de savoir quelles sont les aspirations des mecs en face. Tu sais qu'ils sont pas de la même couleur que toi, donc il faut leur taper dessus. Voilà. C'est un petit peu un jeu raciste, Edge of Empires. Des fois, t'envoies des prêtres chez eux pour convertir et pour que leurs propres villageois se battent entre eux, mais.
Oh lolo.
Il y a Kéronron qui disait dans le chat, le jeu vidéo, c'est comme le X, le scénario. La phrase est partie, le scénario et Kéronron, si tu pouvais rappeler ta phrase s'il te plaît, parce qu'elle est déjà remontée, j'ai pas eu le temps de la noter complètement. En gros, c'était on n'est pas là pour ta, apparemment.
Voilà.
Ah ça y est, on a parlé de
on commence à plus supporter, on se vire du chat quoi.
Tu nous as saoulé, on t'a kické quoi.
Donc en gros je résume pour notre pauvre Mea qui est parti. En gros je parlais de ce que disait Kéronron dans le chat. En gros le scénario en jeu vidéo c'est un peu comme pour le X, on n'est pas forcément là pour ça.
Après effectivement ça dépend des jeux, mais dans la plupart des jeux d'action ou quoi que ce soit, en fait les cinématiques, et c'était Spielberg et Lucas qui disaient ça justement, et je trouvais ça très intéressant, c'est que la plupart des cinématiques effectivement te mettent dans une action, te mettent dans une ambiance, te mettent une priorité, te disent tes motivations quoi que ce soit, mais qu'à partir du moment où tu vas voir des par exemple dans un Call of, à partir du moment où tu vas voir des mecs à tuer ou quoi que ce soit, tu as juste pensé à tuer les mecs, tu as pas du tout pensé à ce que t'es en train de vivre ou quoi que ce soit. Il y a effectivement plein de jeux où du coup le gameplay commence à changer, par exemple dans la plupart des jeux indés, ou même je sais plus comment il s'appelait, il y a un jeu qui est sorti il y a 2 ans qui était sur la c'était une sorte de parodie de critique des Call of Duty où en fait au fur et à mesure ton personnage devenait fou, et c'était très intéressant. Mais que voilà, à partir du moment en fait où t'as des objectifs à remplir, dans ta tête, en tout cas, le scénario passe à la trappe.
Bah après, ça dépend effectivement du jeu. Alors, Damien, toi, je sais que tu as pas joué, mais
Line, j'ai. Voilà, merci.
Pardon.
Oui. Non, vas-y.
Mais par exemple, l'an dernier, quand il était sorti, j'avais vite fait le Last of Us, parce que je savais que sinon je m'y mettrais jamais. Et là, pour le coup, les actions ont du sens. Déjà parce que c'est certainement dû aux consoles nouvelle génération, mais c'est une PS3, du coup c'était ancienne génération. Bref, mais il y avait une grande fluidité déjà entre les phases de jeu et les phases de cinématique. Et au-delà de ça, t'étais toujours sous la pression en te disant si la gamine elle meurt, mon jeu il est fini quoi. Mon jeu est terminé. Alors du coup c'était, je trouvais au contraire qu'il y avait un stress et que c'était assez intéressant parce que le gameplay et l'histoire étaient intimement liés. Et c'était assez intéressant quoi. Après effectivement voilà, c'est une chose qui a été introduite dans certains jeux vidéo, le scénario. Mais tu regardes par exemple, ne serait-ce que Sonic, quoi. Sonic, c'est juste, voilà, alors il y a Robotnik qui transforme des animaux en robots. En fin de compte, t'en as rien à péter du scénario, parce que ce que tu veux, c'est ce que tu veux.
Bah, c'est ça,
c'est rouler en boule sur des mecs et puis ramasser des anneaux, quoi.
Pendant toute une époque, en fait, le background était juste écrit au dos de la boîte et puis c'était tout, quoi. On savait jamais ce qui se passait, et même des fois,
Pour répéter un truc, ce qu'on dit là sur le fait que le scénario dans les jeux vidéo d'action, c'est un peu un prétexte, c'est valable aussi pour beaucoup de films au cinéma, on dit pas
c'est
le contraire, hein, attention. Hein.
Ah, au cinéma,
c'est pas genre, ouais, les jeux vidéo, c'est un peu, enfin, c'est pas ça, hein, attention. Bah,
pareil, au cinéma, t'as pas mal, c'est la plupart des méthodes des blockbusters, en fait, c'est qu'ils imaginent les scènes d'action, et après, ils essayent de les relier en disant, alors, ouais, c'était, je sais plus comment ils s'appelaient.
C'est ce qu'on appelle le syndrome de John McClane, qui dans Die Hard 4 se retrouve à balancer un hélicoptère sur une bagnole sur un hélicoptère parce qu'il a plus de munitions.
C'est ça, et en fait, c'est juste parce qu'ils ont, pensé la scène et ils ont dit comment on pourrait réussir à l'intégrer à ça. Et t'as pas mal de films qui font ça. Par exemple, de toute façon, c'est simple, Le Monde Perdu, en fait, de Spielberg. Bon, j'aime bien ce film, mais je vais me faire taper. Le Monde Perdu de Spielberg, en fait, Spielberg, il a juste pensé 2-3 scènes, la scène des hautes herbes, la scène de la caravane ou quoi que ce soit, et après, il a dit, bon, bah. Et il s'est pas vraiment inspiré du bouquin. Il dit ouais, on va essayer de lier tout ça par du scénar, quoi. Et ce qui donne un peu un côté hybride. Moi j'aime beaucoup parce que justement t'as ces scènes, quoi. Mais voilà, c'est juste on va essayer de lier tout ça. Et la plupart des jeux d'action, des jeux vidéo d'action, c'est ça. C'est on a pensé ces scènes-là, on va essayer de les lier par une histoire. Et voilà, Driver par exemple, c'était super au niveau de c'était super, mais l'histoire a été rajoutée à dernier moment en se disant ah oui merde, attends, c'est vrai, si jamais on met un mafieux, les gens ils vont gueuler, bon on a qu'à dire que c'est un flic infiltré. Et toutes les scènes c'était juste ouais allez on s'était juste allé livrer d'un point A à un point B, et on nous avait beau nous dire que c'était un mec, fallait livrer pour quoi que ce soit, notre rôle se réduisait à aller d'un point A à un point B.
Non mais les cas de FedEx, faut juste arrêter d'en faire dans les jeux vidéo, quoi.
Le pire, c'est tout ce qui est comment on dit escorte, quoi. Alors ça, punaise.
Oh, bah, on a tous encore en tête, je pense, Resident Evil 4, où je sais plus comment elle s'appelait, la gamine, mais tu devais la transporter d'un point A au point B, et quand elle se tordait la cheville, elle mourait instantanément. Mais meurs, putain.
Ah oui,
c'était juste
ça.
Insupportable, quoi. C'était insupportable. Les quêtes d'escorte et les quêtes UPS, effectivement, je crois que c'est le plus. Ashley, voilà.
Tu as Fable 3 aussi dans le genre, qui est excellent, enfin qui est exceptionnel, quoi. C'est-à-dire que t'as tous les mecs de la Terre qui, si tu veux devenir son copain, te demandent un moment de faire taxi pour eux, quoi. Et ils ont une IA de lemming, quoi. Les mecs, ils voient un monstre, jettent dessus, quoi.
Bah, j'ai pas joué à Fable 1, mais j'ai joué au 2 ou au 3.
Ah, t'as raté le meilleur.
Tout le monde me le dit. En plus, je l'ai dans ma bibliothèque, hein. Faut juste que je trouve le temps d'y jouer. Mais c'est vrai que c'était un truc un peu relou, quoi. Genre dans le 3, dans le 3, t'as un moment, t'as un personnage qui, t'as ton mentor en quelque sorte qui est aveugle parce que vous êtes écrasé sur une espèce d'île un peu chelou, et tu le tiens par la main, quoi. Le mec il a la main devant les yeux en disant on va mourir, et toi tu le tiens par la main, et de temps en temps t'es obligé de lui lâcher la main pour tabasser des ombres d'enfants morts qui vous attaquent. Et t'es juste putain, mais on s'en fout, mais crève dans le sable, laisse-moi m'enfuir de cet endroit. Et c'est hyper relou, quoi, parce qu'en fin de compte t'as pas l'impression de, enfin je trouve pas du tout que ça aide à l'immersion. Là t'as juste envie que le mec se bouge le cul, et t'as juste envie de le lâcher au milieu du temple abandonné, et de te barrer comme un connard, quoi.
Et là, Dreams, justement, je le vois avec l'exemple de Mafia 1 et 2. Et là, c'était le scénario était primordial. Justement, et le jeu en lui-même en pâtissait par rapport à. Enfin, moi j'ai adoré, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu moins aimé Mafia, parce que non seulement c'était hyper linéaire, mais en plus t'étais prisonnier du scénar, quoi. Mais c'était vraiment, par contre, une expérience. Mais ça devient plus une expérience.
Alors le truc qui est marrant, c'est que on parlait tout à l'heure de l'artificialité des liens entre les séquences dans les jeux d'action. Mmh. Ce qui est marrant, c'est que les jeux vidéo avec les cinématiques vont en faire des tonnes, et notamment en termes de spectaculaire, pour justement essayer en gros, on va être tellement épaté par la cinématique et son spectaculaire qu'on va complètement zapper qu'elle est juste là pour faire le lien entre nos éléments, c'est un peu ce qui illustre les mondes de Ralph d'une certaine manière.
Bah, c'est le principe de Call of Duty aussi, qui va dans la surenchère des scènes ou quoi que ce soit, et en fin de compte, C'est pour ça que Call of Duty est beaucoup plus important pour son multijoueur qui est là et du pur jeu vidéo, mais le, toute la partie linéaire en 4-5 heures, c'est une montagne russe, quoi, mais c'est tu t'en profites pas tellement, quoi. T'es plus là en train de suivre l'histoire et en train de suivre ce qui se passe, t'es sur des rails, et du coup tu profites pas tellement du jeu. Mais voilà, ouais, la cinématique c'est juste une récompense à chaque fois, souvent, et c'est ça qui est un peu dommage.
Au-delà des temps de récompense, c'est aussi le fait de dire « Ah ça y est, j'ai atteint ce moment-là de l'histoire, ça y est, j'y suis. »
Ouais, c'est ça.
Ou alors c'est que tu vas avoir un boss et qu'il aurait mieux valu que tu sauvegardes avant.
Alors après, maintenant, en ce moment, on est en train de passer, enfin même, pourquoi je dis en ce moment, avec... vous allez voir cette transition que je vais inventer. Et aussi, on a aussi des films cinématiques, quoi. Genre tout ce qui était à base de FMV. Donc là, sur les MFV, je vous encourage à aller voir tout ce qu'avait fait Spoonny sur ses vidéos. C'est en anglais. Mmh. Vous allez trouver des vidéos sous-titrées en français si vous n'êtes pas anglophone sur les films FMV, quoi. Ça s'appelle les FMVL. Et c'est, vous allez voir les films qu'on faisait à l'époque, quoi. C'était des films interactifs, quoi. C'était, enfin, les jeux qu'on faisait à l'époque, c'était des films interactifs, quoi. Mmh. T'avais 150 disquettes et puis tu cliquais au bon moment, tu cliquais au bon endroit et t'avais ton film qui continuait, quoi. C'était ça le principe. Donc on a ça, on a aussi les cas maintenant, les Heavy Rain,
les Beyond Two Souls,
etc. quoi. C'est un peu le même principe, quoi.
Ouais. On montre à nos auditeurs à quoi ça ressemble.
Ouais, on peut, ouais, bien sûr.
Et nous sommes de retour, merci Cladal pour cet extrait. On parlait, oui, de cette question de Moïse de Glitch qui rejoint un peu ce qu'on disait à propos de cet extrait, si vous voulez qu'on rebondisse là-dessus. Pendant ce temps, Cladal, je te demanderai d'envoyer la vidéo de Tomb Raider en muet, s'il te plaît.
Alors, ce qui est rigolo avec le jeu Beyond Two Souls, c'est que c'est plus du tout du jeu vidéo, en fait, puisque... Enfin, je vais pas dire que c'est pas du jeu vidéo, mais en fait, il y a des passages où si tu fais telle ou telle, enfin si tu fais une action, ça change rien. Tu peux même poser la manette et le truc va dérouler quand même. Au bout de trois tentatives ratées, le jeu va continuer quand même. Et c'est devenu complètement le jeu qui était juste avant Heavy Rain était un peu plus intéressant, même si l'histoire était pas, mais était plus un peu plus intéressant de ce côté-là. Mais ouais, Beyond Two Souls, là il veut vraiment juste faire un film, en fait. Le gameplay devient complètement absent c'est intéressant, mais tu te dis, mais pourquoi avoir autant de beaux graphismes d'un si beau moteur pour rien faire, quoi. Donc voilà, et en plus, ouais, l'histoire est jamais très terrible. Et c'est pour ça qu'on lui reproche plein de choses, c'est qu'à la fois au milieu de gameplay c'est pas terrible et au niveau de l'histoire c'est pas terrible. Mais voilà, mais non, pour le, enfin je ne vais pas parler tout seul, mais juste pour rebondir sur Moïse qui disait que est-ce que le cinéma va se rapprocher est-ce que le jeu vidéo doit se rapprocher du cinéma ou pas. En fait, j'ai l'impression que le cinéma doit plus, enfin sera au début commencer par se rapprocher surtout de la littérature et le jeu vidéo, s'il veut vraiment progresser, il faut qu'il reste du côté de la littérature, du côté du jeu de rôle. The Witcher, c'est tiré de roman. Les métros, ils sont tirés de roman.
Mais ça dépendra totalement du genre de jeu, du style de jeu, de la patte des développeurs et de toute l'équipe qui bosse sur le jeu vidéo de manière générale, parce que tu auras toujours des jeux vidéo qui se concentreront sur leur gameplay, d'autres sur leur scénario. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite et que ça dépendra tout simplement du bon vouloir des développeurs et surtout de ce qui se vendra à un moment T, quoi.
Bah là pareil, Dreams, il parle de Elle Noire, c'est pareil, c'est un film c'est un jeu qui se rapproche beaucoup plus des romans de James Ellroy que des films de James Ellroy. Et je sais pas si vraiment se rapprocher. Effectivement, c'est plus vendeur puisque c'est ce que fait Call of Duty et ça marche peut-être moins bien, mais c'est ce que ça marche à mort. C'est t'as 6 heures de cinématique quasiment, enfin 6 heures de montagne russe, t'es sur des rails, t'en prends plein la gueule, c'est du bon blockbuster et puis voilà. Mais est-ce que t'as passé, oui t'as passé un bon moment, mais voilà, c'est assez rapide.
Bah c'est surtout, est-ce que c'est un jeu qui va rester dans tes mémoires, quoi? Est-ce que c'est un truc, est-ce que tu vas vraiment te souvenir de l'expérience de jeu? Est-ce que ça va vraiment te marquer? C'est surtout ça.
Bah voilà, c'est je pense pas, enfin moi je m'en souviens pas des masses, Mais par contre, ouais, des jeux comme Elle est Noire qui se rapprochent vraiment, ouais, des romans. Là, c'était, et par contre, en matière de jeu, était un peu raté parce que les phases de voiture, elles étaient pas nécessaires du tout et ralentissaient toute l'histoire. Les phases enquête étaient géniales, mais parce que t'avais pas grand chose à faire et que c'était juste, ouais, du dialogue, quoi. Pourquoi les trucs de Telltale marchent beaucoup? C'est pas du tout du film, il se rapproche pas vraiment du cinéma, c'est pas du tout du Beyond Two Souls qui essaye de te montrer des scènes, des cinématiques ou quoi que ce soit, non, c'est de l'histoire qui t'intéresse, c'est des personnages, c'est juste le scénario, donc effectivement il y a des scénarios dans les jeux, mais voilà, le gameplay passe un peu à la trappe, mais s'intègre quand même à l'histoire, et ce qui fait que t'es en train de vivre une histoire interactive, mais pas une histoire cinéma, une histoire plus, puisque c'est tiré des comics, je crois, vraiment, Walking Dead, il me semble. Que de la série.
J'ai pas joué encore au jeu Walking Dead, mais d'après ce que j'ai, enfin, je regarde la série et je lis les comics. Mais d'après ce que j'ai compris, ça prend pour base effectivement les comics,
ouais,
pour ensuite tisser sa propre. Enfin, t'as apparemment des personnages qui sont nouveaux, qui sont présents ni dans la série ni dans le comics. Et en fait, les jeux vidéo partent dans leur propre direction. Effectivement, c'est pas plus mal, quoi. Parce qu'effectivement, voilà, on parlait tout à l'heure du fait de, ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de reproduire dans le jeu vidéo ce que tu vois dans un film? Pas nécessairement, voilà. Si ça avait été juste faire dans le jeu vidéo ce que tu vois déjà dans le comics ou dans la série, je pense que ça aurait été rapidement chiant, quoi.
Voilà, tiens, justement, Walking Dead est en train de dire le truc est basé sur la BD, et on me dit ouais, c'est plus proche d'une série. Ouais, mais c'est pas proche d'une série télévisuelle, enfin en matière de sortie ici, mais c'est plus proche d'une série comics, en fait. T'es plus en train de lire quelque chose, et plus en train de vivre une histoire écrite, plutôt que de vivre une histoire de série. Je sais pas si je m'explique bien, mais voilà. C'est plus...
Si, mais à chaque fois, tout le monde me dit qu'en plus les jeux Walking Dead ils sont bien et il faudrait que je me dégote une console.
Ouais, ils sont bien, mais voilà, parce que.
Ils sont sur 360, non?
Ouais, ouais, aussi, ils sont sur PC, ils sont sur partout.
Je suis de retour parmi les vivants en parlant
oui,
de Walking Dead.
Oui, tu étais décédé.
Je suis désolé, c'est mon ordi qui décède en fait. Il a surchauffé. Donc malheureusement pour le chat du live, je ne pourrais pas vous lire en fait, parce que là, en fait, j'ai décidé de tout fermer, je laisse plus que Mumble ouvert. Du coup, je ne lis plus le Twitch. Je suis désolé. Vous pouvez m'insulter, je vous lirai pas. Donc voilà.
Non mais on lira à nous.
Voilà. Pour continuer sur le sujet là, sur les codes qui sont pris du cinéma par le jeu vidéo. Un truc qui est impressionnant, c'est que le jeu vidéo a quand même certaines contraintes en moins que le cinéma, notamment au niveau de la mise en scène. Dans le jeu vidéo, tu t'en fous de mettre la caméra n'importe où, tu t'en fous de faire des plans séquences, etc. quoi. Au cinéma, là, quand ils ont fait la motion capture, la première chose qu'ils ont fait, c'est mettre la caméra dans des points incroyables, dans les coins incroyables, et faire des plans séquences, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que là, dans le jeu vidéo, on est en train de prendre la mise en scène du cinéma, alors sans en avoir les contraintes, quoi. Et on commence même à avoir des jeux où on met des bandes noires en disant ouais, mais c'est plus cinématographique, etc. Et tu regardes, tu fais, mais c'est au fait, on est en train de s'imposer les contraintes du cinéma alors qu'on les a pas, quoi.
Ouais, et puis c'est justement pas la piste qu'il faut prendre, quoi.
Oui, c'est vraiment bizarre, quoi.
Johan, Moïse veut que tu démissionnes, du coup.
Ouais, mais Moïse l'encule. Alors,
Je ne réagirai pas.
Pour revenir à ce que tu disais par rapport au cinéma et aux jeux vidéo qui se rejoignent au niveau des codes, c'est vrai que les deux vont se retrouver à piquer aussi les mêmes astuces marketing.
Oui, on a ça aussi. C'est vrai que maintenant, on commence à avoir des trailers complètement fous pour. À une époque, alors moi malheureusement je suis un peu trop jeune pour la connaître, mais apparemment il y avait le Zelda qui était passé en bande annonce au cinéma.
Ouais, Zelda qui était passé au Cinoche, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant.
Donc voilà.
Et puis on avait le Tomb Raider qui utilisait la voix de l'actrice qui doublait Sandra Bullock. Alors son nom m'échappe de ce qu'on.
Et c'était rigolo parce que justement c'est dans le jeu Tomb Raider, c'était donc l'actrice qui doublait Sandra Bullock, mais dans le film Tomb Raider,
Françoise Cadol.
Et ben ils ont repris Françoise Cadol pour faire la voix d'Angelina Jolie dans Tomb Raider, donc c'était assez rigolo le film.
Et c'est d'autant plus, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que en termes de musique, par exemple, le jeu vidéo est de plus en plus en train de s'éloigner de la boucle à la con dont se moquait PV Nova, par exemple, dans sa vidéo. Ce sera plus de la vraie musique du film, du vrai score, avec un orchestre et tout, et ça va donner des choses qui peuvent être intéressantes. Quoique, si on pousse ça trop loin, ça peut rendre perplexe.
Bon, juste pour dire à Moïse que je rigole, hein. Évidemment, je l'aime bien.
Mais là, justement, ce que Narga Kuga dit bien, c'est que vous voyez les codes du cinéma n'est pas au final le moyen de se légitimer niveau artistique. C'est ça, c'était ce qu'on disait de David Cage, c'était qu'on avait l'impression que c'était un réalisateur frustré, en fait. Et du coup, il veut faire, je veux faire mon film. D'ailleurs, sur l'avant-première de Beyond Two Souls, c'était au Grand Rex, tu vois, en disant, vous voyez, je projette mon film sur un cinéma.
Oui, c'est pathétique, quoi. C'est vraiment ça, c'est pas. C'est ça, c'est-à-dire les mecs ils font pitié, quoi. C'est-à-dire tu leur dis mais arrêtez de vouloir copier un autre média, quoi. Vous faites pas du cinéma.
Je pense pas que ce soit pathétique, parce que le problème du jeu vidéo, c'est tout simplement que dans la tête des gens qui n'y jouent pas forcément et qui sont pas vraiment familiarisés avec ce média, c'est même pas un art, et ça reste quelque chose de mineur.
Ouais, c'est inférieur, ouais.
C'est quelque chose qui est en dessous du cinéma, qui est en dessous de tout, alors que ça déploie les mêmes corps de métier qu'au cinéma, c'est-à-dire que tu vas avoir des compositeurs, tu vas avoir des gens qui sont dédiés au scénario, tu vas avoir des gens qui vont s'occuper de la mise en image, tu vas avoir des gens pour ça, mais en plus ça déploie des corps de métier que tu ne vois nulle part ailleurs que dans le jeu vidéo. Et le problème, c'est que le jeu vidéo est considéré comme quelque chose dans la tête de certaines personnes, est encore considéré comme quelque chose d'inférieur au cinéma. Alors que non seulement il en reprend beaucoup de codes, mais qu'en plus il déploie exactement les mêmes mécanismes, quoi. Le fait que, on avait parlé lundi, je crois, mais le fait que, par exemple, s'il y a des concerts de musique de jeux vidéo, ça veut peut-être aussi dire que les gens commencent à se rendre compte que, ah ouais, merde, mais en fait le jeu vidéo c'est un art et ça rassemble quelque chose d'un peu plus profond qu'un truc d'une heure et demie avec un scénario, quoi. C'est des jeux qui peuvent se faire sur une cinquantaine d'heures avec de la musique orchestrale, et il y a quand même de très très belles choses qu'on ne voit pas forcément au cinéma.
Ginger,
oui, c'est moi.
On va t'appeler Transition Woman, parce qu'on a les images du ciné-concert, jeux vidéo et...
Putain, heureusement que je suis là.
Alors, bec la dalle, à toi de jouer. Bon, on se retrouve dans 50 secondes.
Des violonistes, un chef d'orchestre, des trompettistes, ça ressemble à un concert de musique classique traditionnelle. Sauf qu'ici, on ne joue pas Mozart ou Vivaldi. Bienvenue au Video Games Live, un concert de musique de jeux vidéo interprété par un orchestre symphonique. C'est la deuxième fois qu'un tel événement a lieu en France au Palais des Congrès de Paris. Du coup, le concert se joue à guichet fermé. Les 3800 places se sont toutes vendues sans problème.
En France, on ne considère pas du tout ça comme un art, alors que le jeu vidéo est vraiment devenu un art. Je veux dire, aujourd'hui, c'est des équipes de centaines de personnes qui travaillent dans le jeu vidéo. Il y a plein d'artistes, que ce soit pour la musique, que ce soit pour le design des personnages, le design des décors.
Et justement, pour ne pas oublier les décors et les ambiances des jeux, des écrans géants diffusent en même temps des extraits des jeux interprétés. En 2h30 de concert, le spectateur a le droit à une vraie rétrospective des plus grands succès consoles. De Mario à Metal Gear, les passionnés sont ravis. Un engouement qui n'étonne pas le producteur de cet événement, car dans un jeu, la musique joue un très grand rôle.
La musique, elle est présente pendant tout le jeu. C'est-à-dire que souvent, une musique de film, elle est là, présente à certains moments pour accompagner la dramaturgie, accompagner l'histoire, et souvent dans les moments de silence, parce qu'on ne peut pas mettre de la musique sur les dialogues de film. Alors que là, la différence, c'est que dans un jeu vidéo, la musique est présente non-stop. Donc elle nécessite d'avoir des couleurs très très variées et d'être de plus en plus riche.
Nous revoici donc. En fait, il y a eu un phénomène assez particulier en assistant à ces ciné-concerts. Donc c'était MEA, si je me rappelle bien, parce que on a...
Ouais, je vais encore me faire taper dans les commentaires, mais dans le chat. Mais... En fait, il y avait quelque chose de vraiment bizarre, parce que j'avais été au Video Game Live 2 années consécutives.
T'inquiète pas, on neutralise.
En fait, la première année, c'était assez intéressant parce que c'était justement des arrangements de Megaman, de choses comme ça. Et donc c'était cool parce que c'était une musique qu'on n'entendait pas en orchestré, donc ça faisait vraiment, il y avait vraiment un travail derrière en fait d'arrangement. Mais la deuxième année, ils avaient passé du World of Warcraft, ils avaient passé du jeu PC, je sais plus ce qu'ils avaient mis. Et le truc, c'est que à chaque fois ils disaient ouais, on nous a refilé les partitions, les machins. Et du coup, tu te retrouvais à avoir le concert jouer exactement la musique que toi tu avais. Et du coup, ça perdait énormément d'intérêt, puisque tu te dis, ouais, bah, je suis juste en train d'écouter la même chose, il n'y avait pas d'adaptation, il n'y avait pas de travail derrière ou quoi que ce soit. Tandis qu'un ciné-concert, c'est là où c'est assez autre chose, c'est que le... Et donc, du coup, ouais, voilà, c'était là mon point, c'est que le concert jouait la musique telle qu'elle a été écrite ou quoi que ce soit, bon, bah, c'est bien joli, c'est un concert, de toute façon, ça va. Mais c'est tout. C'est-à-dire que ça interagissait pas avec l'écran. L'écran, il était juste là pour placer de belles images. Tandis qu'un ciné-concert est quelque chose qui est beaucoup plus, qui est très intéressant. Et c'est ce qu'on avait vécu au Stunfest aussi ensuite derrière. C'est que l'orchestre va jouer la musique de ce qui est en train de se dérouler à l'écran. C'est-à-dire que si jamais il y a une scène d'action, il y a quelqu'un qui est surpris. T'entends la musique, il fait tin! Et des trucs comme ça. Donc il joue en même temps le truc. C'était vraiment très cool. Et ce que nous, on avait vécu au Stunfest, c'était le speedrun de l'apocalypse, et il y avait quelqu'un qui jouait à, je sais plus qui c'était, qui jouait à Castlevania, et en fait derrière t'avais du coup le groupe qui était en train de jouer Castlevania en fonction du joueur. C'est-à-dire que quand le joueur perdait, il jouait à la guitare, c'était trop cool. Et voilà, c'était pour ça que moi ça m'a mis mal à l'aise quand j'ai été à Video Game Live, parce que je me dis, ouais, bah, ils sont juste en train de jouer de la musique, c'est pas intéressant, enfin je veux dire, je vois pas
ça pourrait être la plus-value.
Je vois pas la plus-value en fait. Et tandis que les ciné-concerts, tu vois la plus-value parce que tu es vraiment en train de vivre le moment avec en plus le concert qui joue derrière, et c'est vraiment quelque chose à vivre. Si personne n'a été à un ciné-concert, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Après, tu peux plus voir des films normalement parce que t'as toujours envie qu'il y ait quelqu'un qui est en train de jouer de la musique derrière toi, mais c'est vraiment impressionnant. Hein.
Bah après, personnellement, j'y suis encore jamais allée, mais c'est un truc qui me tenterait vraiment. Par exemple, j'avais raté sur Lyon, ils avaient diffusé, je sais pas s'ils l'avaient fait pour le premier, mais pour les deux tours et pour le retour du roi, ils avaient fait des ciné-concerts comme ça à Lyon. Mais effectivement, enfin, il y a aussi un côté interactif qui se retrouve pas forcément dans les ciné-concerts, dans lesquels tu vois juste une projection de random des images du jeu, niveau par niveau, quoi. Mais après, c'est vrai que ce qu'on avait au Stunfest, c'est aussi une convention qui est dédiée aux jeux vidéo. Du coup, c'est un petit peu normal qu'ils axent le concert là-dessus, quoi, sur le jeu vidéo en lui-même, et que ce soit pas juste des images d'illustration.
Ouais, mais c'était cool.
Est-ce qu'il y a des ciné-concerts du dernier film des Chevaliers du Fiel?
Je crois pas.
Ouais,
que
ouais, c'est
là-dedans.
Vrai que ça me manque un petit peu. Quoi.
Ça, c'est...
Et est-ce
ça,
que vous croyez qu'il y a des ciné-concerts des spectacles de Noël Pernat?
Avec tout plein de wamp, 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 chaque van.
Il faut demander à son reproducteur, je suppose.
À son reproducteur. Mais après, du coup, c'est pour ça que c'était un peu bizarre les Video Game Live. C'était très cool, hein, mais comme c'était des musiques qu'on avait déjà en version orchestrée, que c'était à la note près, qu'il n'y avait pas beaucoup d'arrangements, quoi que ce soit, bah, moi j'ai pas trouvé ça très intéressant. Cool.
Non, mais c'est vrai qu'au final, bah, c'est encore une fois, c'est comme quand les mecs récupèrent les codes du cinéma, là, ce coup-ci, ils récupèrent un peu les codes, on va dire, de la musique un peu classique, on va dire. Mm. Et c'est vrai qu'au final, tu perds un peu ce qui fait la particularité du jeu vidéo, quoi. Bon, à côté, bon, après, pour le coup de la musique, je serais un peu moins tranchant, dans le sens où, bon, que les mecs se rapprochent des instruments véritables plutôt que continuer sur le chip tune.
Ah oui, non, mais ça.
C'est pas plus mal.
Ah bah,
mais c'est vrai qu'en live, je pense qu'effectivement, ça perd de l'intérêt, quoi.
Bah, un des meilleurs moments de jeux vidéo que j'avais vécu, c'était le Medal of Honor avec la musique de Gakino derrière. C'était d'ailleurs Gakino qui était commentateur de jeux vidéo, qui maintenant fait du très bon boulot au cinéma. Mais voilà, c'était assez impressionnant.
Après, on peut aussi dire que ces événements-là peuvent être vus comme une manière pour le jeu vidéo, une, de se légitimer d'une certaine manière, et ce dont on parlait tout à l'heure, et deux, peut-être d'essayer de drainer de nouveaux publics. Alors après, est-ce qu'ils vont rester, est-ce qu'ils vont pas rester? Le ciné-concert, je suis pas sûr que le cœur de cible, ce soit les puristes qui connaissent la musique des jeux par cœur.
Non, justement, c'est pour ça que moi ça m'avait déçu, parce que moi quand je suis sorti du coup du ciné-concert, des trucs de Video Games Live, moi j'étais déçu, je fais oh bon c'est nul, hein. Et les gens étaient contents, tu vois, ils font ouais mais j'ai la musique de World of Warcraft, c'était cool, machin, je fais bah oui mais ok c'est cool, mais je voulais plus. Si après ils ont chanté Still Alive en live, ça c'était cool parce que c'était autre chose, c'était pas du tout ils ont pas repris comme s'ils avaient pris le MP3 et joué le truc derrière, donc voilà. Mais bon, après, ouais, en matière d'essayer de reprendre, de se légitimer en reprenant les codes du cinéma ou quoi que ce soit, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec le FMV et ça a raté, quoi.
Oui, c'est un échec assez cuisant.
Bah, ils avaient pas.
sachant qu'au départ, le cinéma lui-même essayait de se légitimer en faisant appel aux classiques, puisqu'en 1940, Disney avait monté Fantasia, qui était exclusivement basé sur de la musique classique. Et à l'époque, c'était aussi une manière pour Disney, un, d'attirer les enfants vers la musique classique, mais aussi, deux, d'attirer les adultes musicophiles vers le dessin animé.
Mais justement, c'est ça qui était intéressant, c'est que le cinéma sur quoi il se basait au tout début, pour légitimer les scénarios ou quoi que ce soit, il prenait à chaque fois des romans. Il prenait les romans qui cartonnaient et il les adaptait au cinéma en disant hey, regardez, vous avez vu, on est en train de se légitimer et de faire de l'écriture et de reprendre des classiques. Et c'est rigolo que maintenant c'est le jeu vidéo qui reprend le cinéma.
C'est pas seulement le roman d'ailleurs. Par exemple, le premier film portant sur le Titanic a été produit même pas un an après le naufrage du bateau.
Oui.
Le truc quoi. Le truc de retour quoi.
C'est un petit peu glauque hein, quand même.
Ouais, bah t'avais Méliès aussi qui était engagé pour reproduire des extraits de la Première Guerre mondiale, de retourner ça en faisant croire que c'est des images d'archives.
Alors il y a Ibouné qui pose une bonne question, mais alors les codes propres du jeu vidéo ce serait quoi?
Bah c'est le gameplay. C'est après, enfin le sujet est vaste, mais le jeu vidéo c'est du jeu.
Après tout à l'heure je parlais par exemple de tout ce qui était angle de caméra. Là aujourd'hui avec la motion capture, aujourd'hui le cinéma est capable de faire ce qu'on fait depuis 20 ans dans le jeu vidéo, c'est-à-dire placer sa caméra où il veut, faire du plan séquence, etc. Et comme je disais, le cinéma quand ils ont eu ça, c'est la première chose qu'ils ont faite, quoi. Les mecs ils se sont débarrassés de ça, alors que nous dans le jeu vidéo, le jeu vidéo, eux, ils s'imposent le contraire, quoi. Ils ont tous les outils pour le faire, mais non, ils pensent plutôt faire des plans coupés, etc. Donc là, sur ça, sur les plans de caméra, etc., là, pour le coup, les codes se rejoignent. Mais c'est tout récent, quoi. C'est tout récent. Après, oui, au niveau code, effectivement, il y a l'interactivité dans le jeu vidéo, tout simplement, quoi. Déjà, ça.
Mais c'est justement le truc, c'est que maintenant ils se rapprochent du cinéma aussi parce qu'ils ont l'argent pour le faire, le jeu vidéo. Mais maintenant justement ils dépensent une fortune en AAA et il faut que ce soit le plus, faut que ça plaise à tout le monde. Il y a plus vraiment d'artistes, il y a plus vraiment de une seule personne qui décide comment dans quelle direction va le jeu. Il y a
tout plein de trucs. L'interactivité est complètement est une illusion. C'est-à-dire quand tu discutes avec un personnage dans les Mass Effect, etc. Tu peux troller le mec, lui dire oui, lui dire non, à la fin il te sortira ce que tu veux, quoi. Il te donnera les informations qu'il te faut. C'est pas interactif, c'est de l'illusion, là. Si tu penses que le jeu, il en a quelque chose à foutre quand t'es cliqué à droite ou à gauche, tu te plantes, tu te mets le doigt dans l'œil, hein, très clairement. Ouais. Hein.
Captain Quack qui dit je considère les dating sims comme des jeux. Ben oui, mais c'est parce que dans les dating sims, t'as aussi il faut gérer ton temps, t'as énormément de paramètres qui sont pris en compte. Enfin, après, ça dépend lesquels les dating sims, mais t'as un jeu, c'est le système des livres dont on est le héros, c'est pareil. Mais c'est pas juste une cinématique et derrière, quoi. Enfin, c'est pas la Beyond Two Souls, quoi.
Ça crache beaucoup sur Beyond Two Souls, je trouve.
C'est un truc qui m'avait énervé, en fait. C'est vraiment le truc où si tu poses la manette, t'as aucune interactivité sur le jeu et ça m'énerve vraiment, quoi. Je vois pas l'intérêt l'intérêt d'un jeu vidéo, c'est que même si on te donne un choix quelconque, un choix entre comme les Telltale, tu vois, voilà, tiens, les Walking Dead, finalement, souvent les choix, ils ont pas vraiment de conséquences sur la fin. Sur la fin de l'aventure, mais t'as l'impression d'avoir vécu ta propre aventure. Et c'est ça qui est important dans un jeu, c'est d'avoir l'impression de, si c'est pour vivre exactement la même aventure que je sais pas, Germain à côté a vécu aussi, je vois pas l'intérêt, en fait. C'est le jeu, tu te fais, enfin le but, c'est pas le but à atteindre qui est important, c'est la manière dont il arrive. Et si tout le monde a la même manière d'y arriver, moi ça, enfin c'est pas intéressant. C'est ce qu'on appelle. C'est pour ça que la plupart des indés cherchent justement à se concentrer, déjà parce qu'ils ont les thunes, enfin ils ont pas de thunes, mais ils cherchent à se concentrer plus sur tout ce qui est le gameplay, parce que c'était ça les fondements du jeu vidéo, et c'est ça. J'ai rien contre les jeux qui veulent s'inspirer du cinéma, j'ai rien du tout contre ça, mais je trouve juste que, en fait, à force de vouloir faire ça, tous les jeux vont, de toute façon c'est exactement ce qui se passe en ce moment, les jeux se ressemblent, quoi. Ça devient juste des blockbusters à la suite, sans charme et sans intérêt.
Après, ça dépend. Il y a aussi effectivement le jeu indé, mais il y a après le délire des grosses compagnies qui sortent leur jeu indé, entre guillemets, C'est-à-dire qu'ils sortent des petits jeux qu'ils ont développés en équipe réduite et qu'ils font passer ça pour du jeu indépendant parce que ça donne un cachet un petit peu différent. Genre, on n'a pas eu beaucoup de moyens et on a quand même fait un super jeu.
Ah, ça existe dans le cinéma aussi. Hein.
Oui.
Et il y a aussi une autre chose en matière de... J'étais en train de repenser à au pétage de plomb de Jean-Luc Mélenchon à propos d'Assassin's Creed.
Mais là c'était débile parce que la plupart...
Sachant qu'il a reproché à Assassin's Creed ce qu'on a reproché au cinéma début.
Mais c'est ça, et les gens se sont offusqués. C'est surtout ça qui est énervant, tu vois. Quand on fait, oui, j'en ai marre qu'on prenne les jeux vidéo pour un truc de gamin. D'accord, bah on va le traiter comme une œuvre de culturel. Alors du coup, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ouais, mais non, c'est qu'un jeu, il faut... Mais décidez-vous, les mecs.
Ouais, mais alors après, si tu veux, alors... la réaction qu'il a eue était débile, mais par contre, c'est vrai que quand tu vois Ubisoft qui vend son jeu en disant, regardez, c'est une simulation historique, vos gosses, enfin, en gros, ils ont vendu le jeu aux parents, oui, en leur disant, achetez ça à vos gosses, ils vont apprendre c'est quoi la Révolution française, ils auront 18 sur 20 à l'école en histoire géo.
Oui, et puis, voilà, c'était quoi. Magique, ça. Il y a des ouais, mais en fait, il y a des incohérences dans votre jeu. Ouais, non, mais c'était fait exprès.
Ouais, mais c'était
et donc,
fait exprès.
Du coup, c'est vrai qu'au final, la réaction de Mélenchon était conne, mais elle était, au final, quand tu regardes le contexte, quand tu vois comment Ubisoft le vendait, c'était pas complètement hors de propos, c'est-à-dire qu'effectivement tu pouvais reprocher au jeu de ne pas être accord avec l'histoire dans le sens où Ubisoft l'avait vendu comme étant raccord avec l'histoire. C'est ça quoi.
Mais de toute façon, Assassin's Creed Unity, il y a tout qui va pas. De toute manière, déjà ils disent oui. Alors ce qui est important, c'est pour nous le plus important, c'est d'avoir un jeu bien fait, d'avoir un jeu parfait. Bah pourquoi il est bugué quand tu le sors? Bon, alors c'est pas grave, on va sortir un patch.
Pourquoi quand vous sortez des patchs, les patchs sont buggés?
Pourquoi tu nous sors un patch qui est bugué alors? Mais enfin, on va le voir jouer sur Uplay. Bah pourquoi j'ai une mise à jour toutes les 2 secondes et pourquoi ça me déconnecte?
Pourquoi j'ai une mise à jour de 40 gigas?
Bah, le principe d'un jeu, c'est de jouer. Ah, RMS Titanic. Je vois le truc, mais bon, assez de toute façon ils ont fait, c'est nul. Black Flag était rigolo parce que c'est dans l'ambiance de pirate, mais bon. Je sais plus sur quoi on.
Je sais plus trop moi non plus. On est de toute façon presque arrivé au terme de notre discussion.
Oh bah bien tchatché quand même.
Il y a Fred qui vient d'arriver.
Je propose une standing ovation pour notre grand maître à tous qui vient de faire son entrée.
Mais voilà, justement, et c'est exactement ce que dit Fred. Assez, c'est un gâchis parce que on subit l'histoire plutôt que de faire de l'histoire. Et du coup, on subit le jeu plutôt que de faire le jeu.
Je suis pas spécialement d'accord avec ça parce que le problème, c'est que c'est peut-être aussi que si tu influences le jeu, et qu'ensuite tu achètes le jeu suivant. Imaginons par exemple, je sais pas que l'Assassin's Creed numéro donc le 3 machin se passe à telle époque et que le 4 se passe à une autre époque. Enfin, si tu modifies le cours de l'histoire dans un des jeux, comment ça se passe pour le jeu suivant du coup? Tu partirais avec une espèce de mise à jour par rapport à ton ancien jeu pour voir sur quel scénario t'aurais abouti?
C'est pas forcément ça. De toute façon, on s'en fiche puisque le jeu d'après a souvent rien à voir avec le jeu d'avant, donc ça c'est pas très grave, il suffit juste de changer d'événement. Mais non, mais voilà, c'est exactement, c'est pourquoi Skyrim ça cartonne, pourquoi tout machin, parce que les mecs ils peuvent passer 500 heures sur un jeu quoi. Tu peux faire, ils te gonflent pas ta durée de vie en allant chercher des plumes à travers les USA.
Bah après c'est un petit peu particulier parce que déjà on parle pas du tout du même univers, étant donné que Skyrim se passe dans un univers heroic fantasy, c'est hors du temps, donc t'as pas vraiment de... T'as pas de trame historique, quoi. T'as pas de trame historique définie. Mais le problème de tous les jeux type Assassin's Creed et compagnie, c'est qu'étant donné qu'ils se passent dans une certaine réalité historique, on va dire, du coup, une histoire qui a déjà existé, ben tu peux pas non plus te permettre de trop changer les choses,
parce que sinon ça veut plus rien dire. Moi je pense que tu peux te le permettre, y a pas de souci. Tu peux te permettre de transformer l'histoire, mais dans ce cas-là, tu vends pas ton jeu vidéo en disant c'est la réalité historique, mais c'est une reconstitution. Ça c'est mensonge.
Je dis pas le contraire, mais le fait est qu'à partir du moment où tu fais un jeu vidéo et que tu pars d'une réalité historique et que tu t'ancres vraiment dans un contexte historique, le problème c'est que il y a forcément un moment où tu vas arriver au bout du jeu, quoi. Tu vas arriver au bout de l'histoire.
Tandis que
dans Skyrim, étant donné que c'est quelque chose qui se passe dans un univers, on va dire parallèle, enfin dans une trame historique qui n'existe pas, tu es libre de créer tout ce que tu veux et du coup t'as pas vraiment de frein à la créativité et à la durée de jeu.
Alors que demain, on va avoir justement ce problème qu'il faut que ça tienne en 2 heures de projection.
Oui, non, et voilà, mais justement, on prenait l'exemple du parrain de tout à l'heure, de l'adaptation du parrain. Le parrain, c'est pareil, t'as une histoire que techniquement tu devrais subir à la base, mais tu peux faire quasiment tout ce que tu veux pour atteindre tes objectifs ou quoi que ce soit. Et de toute façon, bon, déjà, l'histoire d'Assassin's Creed, voilà quoi, c'est pas, enfin, je sais pas, le à chaque fois qu'ils définissent un nouveau événement historique, le seul jeu rigolo, c'est de savoir qui est Templier, qui est Assassin, quoi. Et mais tu peux réussir à trouver, je sais pas, par exemple dans Brotherhood où Brotherhood était cool, le 2 était cool parce que tu faisais, par exemple dans le deuxième, tu pouvais reconstruire Rome ou quoi que ce soit. Pourtant historiquement c'est pas un type qui a reconstruit Rome, et t'avais plusieurs missions que tu pouvais faire. Moi on l'avait vendu comme un Hitman à la base, c'est comme ça qu'on nous avait vendu le jeu, en disant ouais c'est un Hitman dans l'historique, tu pourras faire ce que tu veux. Et en fait non, c'est ouais, allez suivre ces mecs, enfin, tu suis les mecs maintenant, allez tuer machin, bon bah tu vas tuer machin, voilà, maintenant allez livrer ce collier à truc, ah, bah, tu vas livrer ce collier à truc. Et je sais pas, moi c'est pas comme ça qu'on me l'avait vendu. Moi on me l'avait vendu comme ouais, par exemple t'as je sais pas, faut que t'ailles tuer Mara, bah tu dois te démerder pour trouver une méthode de le tuer sans forcément que ce soit historique, quoi. Puis c'est beaucoup plus rigolo, enfin je sais pas.
Non, puis même cet aspect au fait de s'accrocher à l'histoire. Enfin moi typiquement, genre tu vois Inglourious Bastard, à la fin quand tu vois les bâtards tuer Hitler, ça me dérange pas. Ou oui, quand voilà, tu vois dans Braveheart, tu vois William Wallace, déjà.
Johan, c'est vachement bien parce que j'avais pas vu ce film et tu viens de me spoiler la fin comme un gros sale.
De rien.
J'espère que tu vas mourir d'un cancer des testicules.
De rien. Et donc quand tu vois pareil dans Braveheart, William Wallace sauter la reine de France alors qu'en vérité à cette époque-là elle avait 11 ans.
Liberté. Bon,
et lui faire un gosse hein, surtout en fait. C'est ça qui est un peu bon voilà quoi, c'est pas raccord avec l'histoire. Alors quoique Braveheart, le cas est un peu particulier parce que le machin a été vendu pareil comme une reconstitution historique, un hommage à l'indépendance de l'Écosse, etc. Bon là c'était un peu plus
c'était surtout un film de 3 heures qui avait pour seul prétexte de montrer 250 fesses face caméra.
Ouais, je n'irai pas aussi loin. Mais en tout cas, ouais, sortir de l'histoire comme ça pour des films, pour des jeux vidéo, moi ça me dérange pas à partir du moment où tu vends pas ton film ou ton jeu vidéo en disant
ouais, comme un truc historique.
Ça c'est une reconstitution, c'est pas normal quoi.
Et du coup, ouais, Tarantino, il disait pour Inglourious Basterds, Tarantino, il le vendait en disant non, c'est une version fantasmée, c'est bon.
Ah oui. Bah, de toute façon, pareil pour tout ce qui est western, si vous savez comment ça tire en vérité un revolver de l'époque, faut rigoler quoi. Il y avait une balle qui partait à 5 mètres, l'autre qui partait à 10 mètres à côté. Et les gars, dans les films, ils tirent tous entre les deux yeux des mecs, quoi. C'est,
oui, non, mais c'est comme, c'était comme dans Red Dead Redemption, quoi. Où le mode multi, c'était juste pas possible. T'étais caché derrière une putain de botte de foin et t'avais un mec qui te mettait un tomahawk entre les deux yeux, quoi. Un tomahawk en or.
Trop badass.
Mais voilà, tomahawk en or.
Et ben justement, Red Dead Redemption, c'était juste pour rester sur le domaine du cinéma, parce que moi, le truc m'avait dérangé justement dans le jeu, c'était le mode histoire qui était un peu nul quoi. C'était juste, c'était toujours une répétition. C'est tu vas voir un mec, t'arrives pendant une scène de discussion et ils font ah bah tiens tu es là, on va pouvoir aller tuer machin. Et poum, t'avais ta mission, tu vas tuer machin. Et puis tu disais mais je m'en fous, moi je veux aller chasser des chevaux, je veux aller chercher des trésors. Et en fait c'est là où t'étais obligé de faire l'histoire quand même, mais t'avais vraiment envie de faire autre chose à côté. Et c'est ça pour moi qui est un jeu vidéo quoi, c'est que t'as l'histoire certes, d'accord, mais enfin, je sais pas, les RPG c'est pareil, t'as une histoire de base, mais ce qui est intéressant c'est les quêtes, c'est les sous-quêtes quoi. C'est pas forcément de suivre le, enfin, ça dépend des jeux, mais pour moi un jeu c'est ça, c'est que tu te fais plaisir.
Et peut-être c'est sur cette notion de plaisir qu'on va terminer, puisque
toujours bien terminer sur le plaisir.
Ben on va justement se faire plaisir.
Partir.
On va se faire plaisir.
On parle pas du projet de film Mario avec Chevalier Las Palès dans le rôle titre.
Non.
Et de notre Bernard dans le rôle de Peach.
Attention, il a des gros yeux ce champignon. Il essaye de te manger.
Je vais juste demander à Cladal, avant d'envoyer la petite surprise de fin qu'on vous a préparée, de montrer peut-être il y a quelques livres qui peuvent peut-être vous intéresser pour prolonger cette discussion fort passionnante. Donc je sais pas si Cladal va nous faire une crise d'épilepsie de passer de l'un à l'autre comme ça, parce qu'il doit en plus tenir près de la surprise derrière. Le truc est mis, c'est vrai qu'il y a 30 secondes de retard sur le Twitch, donc apparemment on me dit que c'est mis. Donc voilà, c'est quelques livres qui peuvent vous intéresser. sur ce dont on a parlé ce soir. Et puis, ben, on va. Il paraît qu'en France, tout finit par des chansons. Nous, on va terminer en musique. Et puis, je voudrais donc remercier, je sais plus lequel de mes acolytes qui m'a donné l'idée de cette fin. Donc, je vous laisse savourer. Je vous dis encore merci à tous les trois. Peut-être rappeler vos chaînes, votre petite actualité respective. Vous avez des vidéos en préparation, des choses en préparation.
Perso, ouais, je suis en train de préparer l'adaptation pour Noël qui sera un hors-série sur lequel j'ai un petit peu galéré ma race cet après-midi.
Je pense... 50 degrés, c'est ça?
C'est bien mon genre de parler d'une merde pareille. Non, t'es, vous verrez, mais c'est sur plusieurs films et plusieurs films d'animation. Étant donné que je pars en vacances le 24 au matin, je pense que je vais mettre l'épisode en ligne le 24 décembre au matin, genre à 7h du matin, et que je retweeterai dans la journée si j'ai accès à internet. Mais voilà, là c'est mon actu, et ensuite je vais prendre un peu de vacances.
Merci, Moa.
Je sais pas encore si je vais faire une vidéo pour Noël ou pas, parce que je suis tombé dans les mêmes travers que d'habitude. Je vais faire une vidéo courte comme ça. Puis j'ai fait, je vais prendre de la doc. Et puis au fur et à mesure que je lis de la doc, je fais, mais c'est intéressant ça, c'est si super. Et du coup, je ne sais pas. Mais je sais à peu près la vidéo que je vais faire en janvier. Et il y a un autre qui devrait sortir aussi, que j'ai tout fait, mais faut juste que je l'écrive.
Yoann.
Voilà.
Et puis moi, écoutez, moi bientôt, il devrait y avoir une fiche technique qui sortira sur la suspension consentie de l'incrédulité. Vous aurez parlé justement un peu du fait que ce qui passe au cinéma ne passe pas forcément au théâtre, aux jeux vidéo, etc. Et donc voilà, faites un saut, si vous voulez faire un saut sur ma chaîne YouTube, vous tapez mon nom sur internet, et voilà. Et Moïse me demande de faire un striptease audio pour terminer.
Et voilà, c'est un peu ça, on va terminer en musique. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir supportés.
Alors, merci à vous aussi d'ailleurs.
Merci de nous avoir invités surtout.
Merci.
Exactement,
c'est clair,
minutes.
C'était bien cool.
Il va y avoir Dark Colette qui va prendre le relais, elle est déjà en place, elle est chaude bouillante, donc on vous laisse avec elle. Et nous on termine en musique, je vous laisse savourer ces petits cadeaux de fin. Merci à tous, bonne soirée, ciao, bye bye, peut-être à l'année prochaine.
Ciao, ciao.
Bonne soirée.